Aujourd'hui, on reçoit Élise Jobin, physiothérapeute chez PCN Physiothérapie, une ancienne athlète du basketball Rouge et Or que j'ai eu l'opportunité d'entraîner. Je te laisse te présenter, Élise.
Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, j'ai joué au basket longtemps. Là, je viens de Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'ai terminé mon secondaire en Ontario. J'ai fait un sport-études, c'était avec Basketball Canada dans le temps, qui s'appelait NIDA, je sais pas.
Je sais même pas.
Ouais, c'est... En fait, c'est le... Ils regroupaient les 12 meilleures joueuses au Canada. Dans ce temps-là, c'était comme un essai, parce qu'il y a beaucoup de programmes internationaux qui regroupent leurs équipes à l'année longue. Fait qu'ils espéraient que ça allait aider au Canada de mieux performer. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, mais moi, j'ai eu la chance de participer mes deux dernières années de secondaire-là. Fait que j'ai gradué en Ontario. Puis, je suis venue à l'Université Laval directement après pour jouer. Fait que je n'ai pas fait de cégep. J'ai eu ce privilège-là aussi, je pense, selon plusieurs personnes.
Finir plus tôt tes études aussi, en
exactement.
Plus.
Okay. Fait que là, c'est ça, je suis allée à l'Université Laval, j'ai joué au basket de 2008 à 2013, puis j'ai étudié en physiothérapie en même temps. Il a juste fallu que je fasse une année de transition, vu que j'avais pas fait de cégep, il a fallu que je fasse mes sciences nat là, qui me manquaient. Puis là, je suis rentrée en physio 4 ans et demi, j'ai joué en même temps, puis j'ai aussi continué avec Basketball Canada pendant ces années-là.
Okay.
D'après moi, tu m'entraînais pour ça aussi, là.
Ouais, je me rassure, ça fait longtemps, là. Mais oui, je pense que oui, on avait fait des programmes spécifique pour ça, puis tu avais des compétitions l'été, je pense, tu te déplaçais.
Exact, fait que c'est en 2008 que j'ai joué avec l'équipe junior, ça c'était avant que je commence avec Laval, puis on allait, cette année-là, c'était une qualification pour les championnats mondiaux, fait que c'était en 2009, fait que c'est la première année, en fait, que j'ai, j'ai fait l'équipe junior ma deuxième année, qu'on a fait les mondiaux en Thaïlande quand j'avais 19 ans. Puis, en 2011 aussi, j'avais fait une équipe canadienne de développement. Fait que c'était ceux qui participaient aux universiades. Fait que j'étais allée en Chine cette année-là pour les universiades. Fait que c'est ça. Fait que ça a été mes apparitions avec Basketball Canada.
Okay.
Puis, c'est sûr que mon parcours comme athlète, c'est un peu ça qui m'a fait vouloir aller en physio.
Est-ce que c'était clair dès le début pour toi que c'était la physio que tu t'en...
Pas nécessairement. Tu sais, j'ai choisi l'Université Laval plus... Ben c'est sûr que côté basket, c'était je trouvais que c'était vraiment idéal pour moi. Mais c'était aussi une université qui avait beaucoup de programmes en santé. Fait que, tu sais, je savais que je voulais aller en santé. C'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. La physio, c'était mon premier choix, en fait, de tous les choix que j'avais faits. Puis, fait que c'est ça que j'ai fini par choisir. Puis, je trouve que ça fitait vraiment juste bien avec mon parcours puis où est-ce que je voulais m'en aller avec ma carrière. Fait que c'est ça.
OK. La question qui tue, comme je travaille aussi dans le monde de l'entraînement, la santé, on parle aux gens de physiothérapie puis de physiothérapeute. Les gens sont pas trop, ils font pas trop la différence, on dirait, entre un physio, une physio, un médecin, un chiro, un masso. Mm-hmm. C'est quoi la différence?
Ben en fait, nous, on est comme... Je ne vais pas dire spécialiste parce qu'en théorie, on n'a plus le droit de dire spécialiste, là, mais on est vraiment les experts à évaluer tout ce qui est blessure. Fait que tout ce qui est douleur, articulation, des blessures liées au sport, c'est ça qu'on est experts à évaluer. Fait que quand les gens viennent, ils ont une problématique, une douleur, on évalue, on fait plein de tests pour voir l'origine de la douleur. Après ça, on va orienter le plan de traitement par rapport à ça. Fait que habituellement, ce que je dis aux gens, c'est que si vous avez mal en quelque part, pas au ventre, pas aux oreilles, tu sais, quand vous avez mal à une articulation, allez voir des physios. Puis si jamais les gens ont besoin de voir après ça un médecin, de passer un examen ou peu importe, nous, on va les référer à la bonne personne aussi.
Parce que vous collaborez, en fait, aussi avec des médecins. Là.
Absolument. Tu sais, nous, c'est sûr qu'on ne peut pas guérir tout le monde. Ça, c'est la réalité. Fait que l'important, c'est qu'on prenne le client, on regarde ses objectifs à lui. Puis, qu'il faut qu'il atteigne ses objectifs. Fait que si on n'atteint pas ses objectifs avec seulement la physio, les exercices, etc., ben des fois, il faut référer à quelqu'un d'autre aussi pour qu'il puisse les atteindre. Là.
OK, parfait.
Ouais, c'est ça.
Dans ton rôle de physio auprès des jeunes sportifs, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand fléau que tu as eu la chance de remarquer au fil des ans? Dans le type de blessure ou bref, dans ce
ben que tu... Je pense que c'est vraiment le surentraînement qui amène plusieurs blessures qui pourraient être facilement évitées. Fait que moi, c'est un peu ça que je trouve qui est dommage avec les jeunes d'aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que nous, quand on était jeunes, c'était pas le cas non plus. T'sais, dans le sens qu'il y avait beaucoup moins de jeunes de blessés à cause du surentraînement, à cause qu'on faisait plus de sports différents, à cause qu'on n'avait pas nécessairement l'opportunité de faire un sport à l'année, juste parce qu'il y avait moins de volume en général. Fait que ouais. Je pense que le surentraînement, ça amène beaucoup de blessures, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a aussi une méconnaissance de la part des entraîneurs ou ceux qui structurent les programmes de sport dans les écoles. Ils savent pas nécessairement que ça peut être vraiment nuisible à la santé d'un athlète, en fait.
Ouais, complètement d'accord avec toi. Je sais pas si tu avais vu la stat des... Ils la sortent à chaque année, à cette heure, au Super Bowl, le nombre d'athlètes qui sont présents au Super Bowl qui faisaient plus d'un sport quand ils étaient au high school.
Ouais, ouais, ouais.
Je pense
ouais.
qu'au dernier Super Bowl, c'était quelque chose comme 90 ou 92% des joueurs présents au Super Bowl qui faisaient au moins deux sports au niveau du high school. Tandis que maintenant, ben, quand on regarde la structure sportive présentement au Québec, les joueurs de hockey vont faire du hockey 12 mois par année, là.
Ah, c'est okay. Absolument. Puis ils ont sorti une étude aussi dans la NBA, je ne sais pas si tu l'as vu, là, avec des stats,
non,
justement. Puis ils comparaient les joueurs qui ont eu des blessures, justement. Ben, ils comparaient des joueurs du même âge, au moins. Puis ceux qui avaient fait du multisport versus ceux qui n'en avaient pas fait. Puis c'était vraiment une grosse différence de pourcentage entre le nombre de blessures, entre le nombre de grosses blessures, par exemple les croises antérieures, les entorses qui vont être plus sévères, des choses comme ça. Ben, il y avait quand même une grosse différence entre ceux qui avaient fait du multisport, ceux qui s'étaient spécialisés trop jeunes, en fait. Fait que ça vaut vraiment la peine d'en parler puis d'essayer de pousser pour qu'il y ait des changements à ce niveau-là, je pense.
Suite à ça, est-ce que tu dirais que qu'est-ce qui pourrait être modifié dans notre modèle sportif au niveau scolaire pour améliorer la formule? Parce qu'on s'entend que la formule n'est pas optimale présentement. Le plus gros changement qui pourrait être fait, qui aurait un impact immédiat, ce serait quoi selon toi?
Bien, je pense que de peut-être restructurer, parce que les programmes de sport-études, je sais qu'au basket, ils exigent 15 heures de basket par semaine seulement dans le sport-études. Fait que ça exclut les pratiques le soir avec leur équipe interscolaire, puis les tournois la fin de semaine, les matchs la fin de semaine. Fait que je pense que le 15 heures de sport-études, il pourrait avoir d'autres volets qui pourraient être rajoutés, qui ne seraient pas nécessairement du basket, par exemple.
De l'entraînement.
De l'entraînement. Fait que ce soit de la muscu, que ce soit des entraînements.
La vitesse.
C'est ça, varié. Moi, je suis impliquée avec un programme de sport-études où est-ce qu'on fait des entraînements vraiment pour la prévention. Fait que pas de charge, c'est vraiment avec le poids du corps, des sauts, un peu d'agilité. Ça peut être aussi la vidéo. On en fait tout dans tous les sports d'équipe, c'est vraiment vidéo. Il pourrait avoir des ateliers sur la nutrition, sur le sommeil.
Avoir des spécialistes externes, en fait, qui viendraient consulter, à titre de consultant, rencontrer les jeunes.
Exactement. C'est vraiment équilibré pour aller... c'est développer le joueur non seulement comme athlète de basket, si je parle encore de basket, mais aussi que ça soit un athlète complet.
Ouais. Ben, tu parles beaucoup de basket, en fait, parce que tu es une ancienne de basket,
oui, oui.
Puis tu es encore impliquée, ton cercle est beaucoup au niveau
au basket.
Du basket.
Mm-hmm.
Mais c'est le même principe au football, c'est le même
Exactement.
Principe au hockey, qui est un sport qui roule pas mal comme le basket aussi, là, à 12 mois par année, comme je disais. Ça amène à parler de spécialisation hâtive. C'est l'impact de la spécialisation hâtive, en fait, qu'on peut expliquer par le fait de faire le même sport ou bref, les mêmes activités sur une année complète pour devenir le meilleur joueur possible en jeune âge. C'est quoi l'impact pour toi, tu remarques, au niveau des blessures auprès des jeunes que tu traites?
C'est ça. Comme j'expliquais un peu, il y a beaucoup de blessures de surentraînement. Fait que les jeunes, ils n'ont pas de break.
Ça va venir à... C'est où, précisément? Tu vas avoir beaucoup
dans
de genoux?
Quelle articulation? Genoux, c'est sûr que les genoux, c'est vraiment fort au niveau du basket. Je dirais que c'est probablement l'articulation qui va être la plus touchée là, au niveau du surentraînement. Fait qu'on parle de syndrome fémoro-patellaire, des tendinopathies rotuliennes. C'est vraiment les plus fréquentes. Puis, je dirais que c'est vraiment ça. C'est sûr qu'il y a aussi des périostites, les fameuses périostites.
Classique.
Tout ce qui est jambes, tout ce qui est bas du corps. Fait qu'au basket, c'est sûr que c'est beaucoup ça, les blessures de surentraînement. Des fois aussi, c'est juste des jeunes qui vont être extrêmement raides, tu sais, à force d'en faire trop. C'est comme le corps qui devient tellement raide. Ça peut être les hanches, ça peut être le dos. Puis, il y a des choses à faire pour ça. Un, réduire le volume. Mais après, ça prend des exercices aussi pour essayer de...
Activer les bonnes chaînes musculaires qui vont t'aider à redevenir mobile, à gagner de la flexibilité.
Puis... Exactement. Puis tu sais, je pense que le corps nous parle. Fait que quand on a des douleurs comme ça, il faut juste s'assurer de trouver une solution puis trouver la cause aussi. Fait que tu sais, la cause étant le surentraînement, c'est pas toujours facile à régler. Fait que c'est là, je pense que c'est bon d'en parler puis de faire de l'éducation aux entraîneurs, aux écoles, parce que je pense que c'est eux qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi, que les jeunes, des fois, ils en font vraiment trop.
En tant que physio, tu te fais souvent consulter pour guérir des blessures, mais est-ce que tu as des demandes de consultation auprès de coachs ou d'équipes sportives pour justement aller parler de surentraînement, de prévention de blessures, ou ça arrive pas vraiment?
Oui, ben c'est sûr que moi, c'est un peu le message que je veux véhiculer, là, la prévention de blessures. Puis cette année, je me suis impliquée avec le sport-études à la Seigneurie, qui c'est maintenant l'école de mini-basketball de Québec qui a pris en charge le sport-études. Puis je suis là comme consultante vraiment pour la prévention. Fait que j'ai regardé, on a structuré une façon pour qu'ils fassent des exercices régulièrement de prehab, là, fait que des exercices préventifs. On a regardé aussi ensemble le volume d'entraînement. Fait que tu sais, regardé pour être sûr que c'est équilibré là, le 15 heures par semaine qu'on parlait. Puis moi, je vais aller de temps en temps avec eux pour faire justement des entraînements à visée préventive, d'éducation aussi. On va faire certains ateliers aussi. Fait que je pense que c'est assez nouveau comme concept. Je pense qu'il y a vraiment place à pousser plus là-dedans. Puis moi, c'est vraiment mon objectif aussi d'essayer de véhiculer ce message-là, comme je dis. Fait que j'aimerais ça aussi continuer dans d'autres écoles à faire le même genre d'intervention.
OK. Tu travailles avec Basketball Canada aussi. Puis, vu qu'on est amis Facebook, je vois passer les posts que tu fais quand tu es en voyager beaucoup. Là. Mm-hmm. Vous allez un peu partout sur la planète. Puis, évidemment, tu as un rôle de physio, mais vu que tu es 24 heures sur 24 avec la gang, c'est quoi les autres rôles que tu vas occuper quand tu te retrouves dans des voyages comme ça?
Oui, bien c'est sûr que tu sais, j'ai le rôle de physio curatif. Fait que donc, si les jeunes se blessent, ben, c'est sûr que comme un peu en clinique, je vais les évaluer, je vais les traiter, je vais leur donner des exercices et tout ça. Un rôle que j'ai plus avec Basketball Canada, c'est au niveau de la prévention aussi. Fait que ça inclut tous les échauffements. Fait que chaque échauffement de chaque pratique, je vais aller voir l'entraîneur qui va me donner son plan de pratique. Puis moi, je vais construire un échauffement adapté au plan de pratique pour faire avec les joueuses. Fait que j'ai souvent le premier 15-20 minutes de chaque pratique là, pour les échauffer. Fait que je mélange beaucoup du basket puis des exercices préventifs aussi avec ça. J'ai tout ce qui est récupération aussi. Fait que des fois, ici, par exemple, au Géor, ça va être plus récupération, les kins, les préparateurs physiques qui vont faire ça. Là, c'est plus moi qui gère ça. Fait que tout ce qui est mobilité, des fois on parle de bain de glace, des choses comme ça, ben c'est plus moi qui vais aborder ça. La nutrition, sans dire que je donne des gros conseils, c'est sûr que j'ai quand même une base aussi là-dedans, ayant été athlète, puis ayant beaucoup travaillé avec des diététistes aussi. Fait que j'essaye de conseiller quand il y en a qui me le demandent aussi, parce que c'est super important dans la récupération aussi, là, la nutrition.
C'est souvent un aspect qui est beaucoup négligé aussi auprès des jeunes.
Oui, vraiment. Puis surtout dans les cas de... avec Basketball Canada, c'est deux entraînements par jour. Tu sais, c'est là que c'est encore plus important.
T'as besoin de récupérer, là,
de récupérer. Exactement. Tandis que quelqu'un qui s'entraîne trois fois par semaine, ben, c'est peut-être moins important. Là. C'est toujours important, mais c'est peut-être moins primordial. C'est ça. Fait que c'est sûr que j'ai d'autres petits rôles aussi, tu sais, tout ce qui est sommeil, des fois on fait des tests d'hydratation, des choses comme ça, fait que c'est un rôle de physio qui est assez large là, avec Basketball Canada.
Le mot prévention est revenu quelques fois dans les discussions. T'as... Cette année, l'an dernier, développer une app qui est dans le fond, qui vise la prévention pour les sportifs.
Exact.
Qu'est-ce qui a fait germer l'idée de créer une app pour toi? C'est ton travail de physiothérapeute puis le type de blessure que tu voyais? Ou...
Ouais, ben en fait, quand j'ai commencé à travailler avec Basketball Canada, je trouvais ça vraiment cool que ça soit moi qui prenne en charge un peu tout ça, puis je trouvais ça vraiment le fun que les athlètes aient accès à toutes ces ressources-là finalement. Fait qu'un warm-up personnalisé à chaque pratique, des exercices, des séances d'exercices préventifs aussi, en plus de la muscu et tout ça. Puis quand je suis revenue, puis en travaillant avec les jeunes, soit dans les écoles ou à la clinique, il y a tellement de choses faciles qu'ils pourraient savoir, soit les athlètes ou les entraîneurs, qui pourraient prévenir une tonne de blessures. Par exemple, comment bien faire un squat, comment bien faire une fente, des choses comme ça. C'est pour moi, c'est vraiment simple. Puis je me disais, ben, faut que tout le monde soit au courant de tout ça, incluant l'échauffement, incluant les exercices préventifs. Fait que mon premier réflexe, ça a été de, OK, ben, je pourrais essayer de véhiculer cette information-là à travers des conférences aux entraîneurs. Fait que c'est là que j'en avais fait une avec l'école à Brébeuf. Mais il manquait toujours quelque chose. C'était vraiment bien. T'sais, les gens étaient super contents, mais il n'y avait comme pas de suivi à ça. Puis on sait tous que n'importe quelle présentation théorique, on va seulement retenir aussi un petit pourcentage de ce qu'on entend finalement.
En fait, tout le monde est super content pendant que la conférence se donne, puis il en remarque les petites améliorations mm-hmm. qu'il pourrait faire directement dans la salle d'entraînement ou dans le gym. Mais une fois que toi, tu t'en vas, puis la conférence est finie, ça...
Exactement. Coupe, puis il n'y a pas de continuité là, à ça. Fait que là, après ça, ben, ça, je pensais à ça. Puis je me disais, ben, la façon la plus facile, puis avec l'ampleur de la technologie aujourd'hui, c'était d'avoir justement une plateforme que les coachs puis les athlètes pourraient utiliser ces ressources-là à tous les jours, facilement. L'app est super facile à utiliser, puis il y a toujours une variété aussi. Ben ça, c'était l'autre défi aussi des conférences, c'est que je leur laissais une feuille avec un ou deux échauffements. À un moment donné, comme la majorité des gens, on se tanne de toujours faire la même chose.
T'as besoin de la progression.
T'as besoin d'une progression, des exercices différents, des exercices qui vont être plus difficiles. Fait que c'était juste vraiment la façon la plus logique de poursuivre si je voulais vraiment avoir voir un impact à ce niveau-là, c'était d'y aller avec une application mobile.
Puis le développement de ton app s'est bien passé, ça a été quoi ton plus gros challenge jusqu'à date?
Je pense que c'est la patience.
Parce que c'est très long.
Ouais, ben c'est long, puis honnêtement, je savais pas, tu sais, je m'embarquais là-dedans un peu en sachant pas à quoi m'attendre vraiment. Mon programmeur est vraiment super. Je cherchais quelqu'un aussi qui connaissait un petit peu c'est quoi des séries, des reps. Tu sais, ça prend quelqu'un qui connaissait aussi. Pour ça, ça a vraiment été super, mais je pense que c'est la patience parce que j'ai une idée claire de ce qu'était mon application. Mais il y avait tellement d'étapes pour se rendre là, puis il fallait corriger des trucs en cours de route, puis tout ça. Fait que c'était vraiment un beau challenge. Puis encore aujourd'hui, en l'ayant lancé, c'est encore vraiment un beau challenge. Mais c'est la patience, je pense.
Puis, dans le fond, on peut retrouver des exercices pour la prévention de blessures, pour les échauffements, mais on peut aussi retrouver des exercices de musculation?
Ben, pas de muscu. Fait qu'en fait, dans l'application, on appelle ça un programme de prévention de blessures. Puis c'est, comme je te disais tantôt, c'est vraiment méconnu. Ben, c'est vraiment connu, en fait, dans le monde de la physio, de la kin, de la préparation physique, parce qu'il y a énormément de recherches qui se font là-dessus. Mais les gens qui devraient l'utiliser, ils savent pas nécessairement c'est quoi. Fait qu'un programme de prévention, c'est des échauffements. Fait qu'avec progression, avec une variété d'exercices. Après ça, tu as des programmes d'exercices préventifs. Fait que c'est là, des fois, je pense que les gens savent pas, mais c'est pas nécessairement de la musculation.
Mm-hmm.
C'est tous ceux-là qui sont dans l'application. C'est des exercices qui sont avec le poids du corps et des élastiques, des fois. Il peut y avoir des sauts, de la proprioception. Fait que c'est tous des programmes, justement, qui peuvent être faits avec peu de matériel. Fait que c'est là que c'est différent un petit peu de la muscu. Puis ça vise vraiment à prévenir les blessures les plus fréquentes dans ton sport. Fait que là, j'ai vraiment lancé l'application Basket. Donc, ça va viser tout ce qui est blessure au genou, traumatique ou non, les croisés antérieurs, les entorses de cheville, un peu tout ça. Fait que c'est vraiment adapté au sport, finalement.
OK.
Ouais.
Est-ce que tu prévois dans le futur développer probablement des sections pour football et autres?
Absolument! Ouais. Oui, ben, tu sais, je pense que c'est logique, là. C'est la progression logique. Là, c'est sûr que je pense que les gens recherchent quelque chose qui est spécifique à leur sport aussi. Là, pour moi, c'était le basket en premier, c'était sûr.
C'est ton sport aussi.
C'est ça que je connais le mieux. Puis ce qui est le fun, c'est que il y a vraiment des concepts techniques de basket mélangés avec des concepts de prévention. Fait que ça vient vraiment être super adapté. Puis des fois, c'est comme, tu sais, les échauffements, il y a des fois des coachs qui sont réticents, par exemple, à faire un échauffement.
C'est encore un challenge en 2019 de faire comprendre aux gens l'importance de s'échauffer.
Exactement.
Avant de s'entraîner, mais aussi avant de faire du sport. Là.
Puis c'est un échauffement aussi qu'il faut qu'il soit efficace puis qu'il y ait un objectif. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs échauffements, des fois, qui sont créés, qui sont, tu sais, qui visent pas nécessairement ou qui ont pas nécessairement de purpose, là. Je cherche un peu le mot. Fait que, tu sais, ceux que j'ai créés, en fait, c'est ça mélange du basket. Fait que, tu sais, des fois, au début, il peut avoir du dribble, il peut avoir des passes, des choses comme ça. Mais après ça, tu vas rajouter des exercices qui vont aller prévenir les entorses de cheville. Ça peut être des sauts, ça peut être de l'activation musculaire. Fait qu'il va préparer le corps aux exigences du sport, finalement. Puis, la fin de l'échauffement, ben encore une fois, tu peux mettre d'autres concepts techniques de basket aussi, mais tu vas aller chercher justement à augmenter ta fréquence cardiaque, à préparer ton corps justement là, à ce qui s'en vient. Là. Fait que je pense que c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui est spécifique au sport. Je pense que les coachs puis les athlètes vont plus embarquer si c'est quelque chose qui convient plus à ce qu'ils vont faire après pendant leur pratique. Là.
OK. Mm. Tu travaillais avec l'école, tu travailles encore peut-être avec Brébeuf, basket. Avec les plus jeunes, les échauffements, tu vas cibler ça de quelle façon pour les intéresser à ça? Tu les jumelles justement avec du basket, du dribble ou en gymnase?
Oui, ben en fait, je pense que ce qui est le fun avec les jeunes, c'est que eux autres, ils sont tellement, on va dire, crinqués là, en bon français.
Motivés.
Motivés, ouais, OK. Ouais. Ils sont vraiment motivés quand ils arrivent au sport-études. Ils veulent vraiment faire de leur mieux puis tout ça. Puis je pense qu'ils vont juste s'adapter à la masse. Fait que si ils voient les plus vieux faire des échauffements, de faire les exercices et tout ça, ils vont embarquer aussi. C'est aussi, je pense, le rôle du coach de mettre de l'importance un peu à l'échauffement puis aux exercices aussi.
C'est clair.
Parce que c'est le coach un peu qui est le leader dans tout ça. Fait que si le coach démontre l'importance de l'échauffement des exercices, je pense que les athlètes n'ont pas vraiment de misère à s'adapter. En fait, moi, ce que j'ai trouvé qui est plus difficile, c'est de convaincre des gens qui ont déjà des habitudes, des athlètes, je parle, qui sont plus vieux, fait que niveau universitaire, par exemple, c'est des fois eux qui sont plus difficiles à convaincre à changer le type d'échauffement parce qu'ils sont déjà...
bagage.
Exactement.
Vraiment une routine qui est... On le voit aussi établi. Chez les pros, traînent une routine des fois qui est dépassée un peu, mais qui ça fait 5 ou 10 ans qu'ils
sont habitués à ça.
Ils utilisent la même façon de faire. Là.
Exactement. Fait que souvent, les jeunes, moi, je trouve qu'ils sont plus réceptifs puis sont plus compréhensifs à ce niveau-là. Fait qu'eux autres, ils embarquent puis ça fonctionne.
Ils ont l'ouverture d'appliquer des Exactement. Nouvelles façons de faire.
Mm-hmm.
Pour les gens qui désirent obtenir ton app, ça fonctionne comment? On la trouve où?
Oui, ben c'est sur le App Store ou sur Google Play. Fait que comme n'importe quelle application, tu peux la télécharger dans ton téléphone. Puis pour payer, fait qu'en fait, c'est des abonnements. Fait que tu peux prendre un abonnement mensuel ou annuel. Fait que pour prendre un abonnement, tu vas sur mon site web qui est www.proathlete.ca. Puis fait que ça explique un peu toute l'entreprise, c'est quoi. Puis il y a la section abonnement où est-ce qu'ils peuvent choisir leur abonnement. Après ça, ben c'est ça, au moment du paiement, ils reçoivent un code d'activation par courriel qui rentre dans l'application. Puis ce qui est intéressant aussi pour les gens, parce que c'est sûr que l'option la plus efficace, c'est d'abonner aussi les athlètes et les entraîneurs. Fait que quand c'est des abonnements de groupe, il y a aussi des prix de groupe.
OK.
Fait qu'il y a un prix qui est sur, justement, le site web, mais quand on va s'abonner, un programme va s'abonner, par exemple, ben ça va être moins cher par individu en s'abonnant en gros groupe, finalement.
Parfait. Merci, Élise, de ta présence au podcast aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
En espérant qu'on va pouvoir contribuer au bien-être des jeunes athlètes au fil des prochaines années.
Ben oui, j'en suis certaine.
Merci.
Merci. Puis?
J'ai perdu le fil, mais ouais, c'est pas super.